France Inter, il est 8h21, 2h21 du matin à Washington, où vous vous trouvez, Grégory Philips, et où l'on voit Donald Trump s'approcher du pupitre dans l'East Room de la Maison Blanche. Il prend la parole dans quelques instants. On va l'écouter évidemment en direct.
Thank you very much. Please sit. Thank you.
Merci beaucoup.
This is without question the latest news conference I've ever had.
C'est sans aucun doute la conférence de presse la plus tardive que j'ai jamais tenue.
I appreciate it very much, and I want to thank the American people.
Je tiens à remercier le peuple américain de son immense soutien. Des millions et des millions de gens se sont rendus aux urnes.
A very sad group of people.
Et un groupe de personnes essaye de mettre à mal un autre groupe de personnes et nous n'allons pas accepter cela. Je tiens à remercier la Première Dame, toute ma famille, le vice-président Pence, Madame Pence, d'avoir été à nos côtés. Et on s'attendait à faire une grande fête. On gagnait tout. Et puis tout à coup, ça a été remis. Les résultats ce soir se sont avérés phénoménaux. Et nous étions en train de nous préparer. On s'apprêtait à sortir et faire la fête pour cette chose si belle, pour ce magnifique succès. Les citoyens de ce pays se sont rendus en urne dans le plus grand nombre, c'est le plus grand nombre jamais enregistré. On a gagné la Floride. En fait, on a gagné de très loin la Floride et on ne s'y attendait pas. On a remporté au l'Ohio, le Texas.
We won Texas by 700,000 voix
devant notre concurrent au Texas.
It's also clear that we have won
Georgia. Il est également clair que nous avons remporté la Géorgie.
We're up by 2.5% or 117,000
voix d'avance, 2,5%. Ils ne vont pas nous rattraper, même s'il reste encore des voix à décompter. De la même façon, nous avons remporté la Caroline du Nord.
Where we're up 1.4%.
1,4%, 77,000 voix, et on est à 95% des voix décomptées, ils ne peuvent pas nous rattraper par ailleurs. Si l'on regarde bien en Arizona, eh bien, quelqu'un a déclaré que l'Arizona, c'était la victoire de Joe Biden. C'est peut-être le cas, mais il faut attendre. Mais en tout cas, il y a beaucoup de voix que l'on peut obtenir, parce que il y a certains qui appellent ça le territoire Trump, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout état de cause, nous avons dit qu'il est relativement peu probable que ça se passe comme ça. Et de toute façon, on n'a pas besoin de gagner ça. Ça aurait été bien de remporter l'Arizona, certes, mais il y a une possibilité, mais ce n'est pas une possibilité. En fait, les choses semblent être en train de se renverser. Donc, évidemment, il faut tenir compte de tout cela, mais, et c'est encore plus important, nous allons remporter la Pennsylvanie.
We're up 600. Think of this. Think of this. Think of this.
Réfléchissez à ceci. 690,000 voix d'avance en Pennsylvanie.
These aren't even close. It's not like, oh.
On ne sait même pas du coude à coude, hein.
With 64% of the
64% des voix ont été décomptées, par conséquent, il est impossible qu'ils nous rattrapent. Et dans certains comtés de Pennsylvanie, il s'avère que les électeurs aiment bien votre président. Alors qui sait, les chiffres vont sans doute monter. Le Michigan, regardez les chiffres. Moi, j'ai regardé les chiffres. Et je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup. Près de 300 000 voix d'avance. Alors que 65% des voix ont été dépouillées. Et le Wisconsin, on n'a pas besoin de tout ça. Tout ce qu'il nous faut. Parce que lorsque l'on ajoute le Texas, moi j'ai parlé au gouverneur tout à fait merveilleux du Texas il y a quelques instants, Rick Abbott, il a dit félicitations, il m'a appelé pour me féliciter pour ma victoire au Texas. On a gagné le Texas, bon, c'est pas tout à fait dépouillé, mais pratiquement dépouillé. Bref, il m'a félicité et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe, j'ai jamais rien vu de tel. Mais personne n'a jamais rien vu de tel. Donc, on a remporté plus de 107 000 voix d'avance, avec 80% des voix dépouillées. Donc, si vous prenez ces trois États, et que vous prenez tous les autres États d'ailleurs, eh bien, quelle grande soirée, quelle grande et belle soirée. Regardez tous ces États que nous avons remportés ce soir. Ensuite, regardez les marges de victoire, l'avance que nous avons. C'est pas qu'on ait 12 ou une douzaine de voix d'avance, hein, et qu'il reste 40% à dépouiller. On a remporté des États et tout à coup, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé dans cette élection? Et il y a des observateurs qui disent, oh, il s'est passé ceci, il s'est passé ça. Et puis, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. Donc ils ont dit, on va saisir la cour. Et moi, je dis ça depuis le jour que je savais qu'ils allaient voter par dizaines de millions par correspondance. Donc, soit ils allaient gagner, s'ils n'allaient pas gagner, ils allaient donc entreprendre une procédure en justice. Ça, je le savais. La Floride s'est avérée une formidable victoire. 377 000 voix d'avance. Ohio. Il y a l'Ohio aussi. L'Ohio, très grand État, j'adore l'Ohio. 8,1% d'avance. Près d'un demi-million de voix d'avance. La Caroline du Nord. Donc on a gagné là, on a une avance de 76 000 voix et tout le dépouillement est pratiquement fait. Et tout à coup, ça s'arrête. C'est une fraude envers le peuple américain. Ça met notre pays dans l'embarras. Nous, nous nous apprêtions à remporter cette élection. Et en toute franchise, nous l'avons remportée. Notre objectif maintenant, c'est d'assurer l'intégrité pour le bien de cette nation. Ce moment est fondamental. C'est une fraude massive qui est en train d'être exercée. Nous voulons que la loi soit exercée de manière appropriée. Par conséquent, nous allons saisir la Cour suprême et nous voulons que le vote s'arrête. On ne veut pas qu'ils trouvent des bulletins à 4 heures du matin et qu'ils les rajoutent à la liste. Non, c'est un moment très triste que nous vivons là maintenant. De ce point de vue-là, nous allons gagner l'élection. Et pour ce qui est des chiffres, eh bien, ils sont de notre côté d'ores et déjà. Je tiens à remercier tous nos supporters, toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec nous. Et Monsieur le Vice-président, allez, venez dire quelques mots, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je veux remercier plus de 60 millions d'Américains qui ont déjà voté pour la période de 4 années à venir avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Les voix font encore l'objet d'un dépouillement électronique, mais nous allons rester vigilants, comme l'a dit le président. Et le droit de vote a toujours été au centre de notre démocratie depuis la création de notre nation. Et nous allons veiller à l'intégrité du vote. Et je crois du fond de mon cœur que, Monsieur le Président, vous avez inspiré dans les États que vous avez cités et de par la façon que vous avez lancé ce mouvement à l'échelle nationale de redonner à l'Amérique toute sa grandeur. Je le crois, tout comme vous, que nous sommes en bonne voie vers la victoire et nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci beaucoup.
Voilà pour le discours de Donald Trump, suivi d'une allocution plus courte du vice-président Pence. Un Donald Trump, donc, qu'on a pu entendre en direct sur France Inter, confiant et même badin. Il revendique la victoire, il parle de fraude massive, il dit vouloir saisir la Cour suprême. Première analyse avec vous, Grégory Phillips, notre correspondant en direct de Washington.
Et donc cette conférence de presse la plus tardive que j'ai sans doute jamais donnée dans ma carrière, a dit Donald Trump, une dizaine de minutes dans la East Room de la Maison Blanche, avec effectivement un discours de victoire pour dire on s'apprêtait à organiser une grande fête après des résultats phénoménaux. Donald Trump parle de magnifiques succès et puis il dresse la liste des États remportés par le parti républicain, l'Ohio, la Floride, le Texas, la Géorgie, la Caroline du Nord. L'Arizona, dit-il, il faut encore attendre, mais nous allons aussi remporter la Pennsylvanie. En Pennsylvanie, dit-il, il est impossible que Joe Biden nous rattrape. Et c'est là, effectivement, que Donald Trump parle d'une fraude massive. C'est une honte. Nous avons remporté cette élection. Et donc, le président des États-Unis, le candidat républicain, entame quasi immédiatement un bras de fer en annonçant la saisie de la Cour suprême afin de faire arrêter le vote.
Grégory Phillips, on vous retrouve évidemment tout au long de cette édition spéciale du 7-9-30 de France Inter qui se poursuit maintenant, Léa, avec une nouvelle table ronde.
Voilà, on présente nos invités. Robert Mallet, président de l'International Crisis Group, ancien conseiller spécial de Bill Clinton et membre de l'administration d'Obama.
Également avec nous, Gabriel Zucman, économiste, professeur à l'université de Berkeley en Californie.
Et puis on va retrouver nos deux fils rouges de la matinée. Gérard Haro, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, vous êtes à Washington.
Et enfin Sylvie Laurent, ici en studio à Paris, historienne, je le rappelle, spécialiste des États-Unis, maîtresse de conférences à Sciences Po, chercheur associé à Stanford et Harvard.
Sylvie Laurent, que pensez-vous à chaud de cet exercice d'autocongratulation de Donald Trump qui revendique donc la victoire, annonce qu'il a gagné dans plusieurs États, qu'il va prendre la Pennsylvanie et qu'il va saisir la Cour suprême pour arrêter le recompte des votes. Que faut-il en penser ?
Bien que Donald Trump dit très exactement, il nous donne les clés de lecture de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il serait bien de sortir de l'idée que tout cela, c'est une, enfin, dévisceraliser un petit peu ce qui se passe. Ça n'est pas l'expression d'une colère, c'est un choix parfaitement rationnel que font les Américains. Donald Trump vient de leur répéter ce qu'il dit depuis 4 ans et dès avant, dès le mandat d'Obama. On vous trompe. Vous êtes victime de fraude. On est en train d'essayer de vous confisquer ce qui vous revient. Ça fait 4 ans qu'il répète ça. Il applique ce discours-là à la grandeur américaine qui se répartit parce que les Mexicains, les Noirs et les Chinois leur auront pris. Aujourd'hui, ce sont les démocrates, les antiracistes et les féministes. C'est ce qui fonctionne. Il est en train de dire pourquoi il a gagné. Il faudrait juste l'écouter. Et donc, ce qu'il dit, c'est que tout cela a été parfaitement préparé. Il a assuré les nominations à la Cour suprême pour ce jour précis, pour cette chose précis. Il répète depuis des semaines qu'il y a de la fraude sans en avoir la moindre preuve, parce qu'il sait très précisément que potentiellement il peut rejouer ce qui s'est passé en 2000. Il a nommé une juge précisément pour qu'elle puisse influer en sa faveur dans le cadre d'un vote.
En 2000, c'est-à-dire la fameuse élection George W. Bush contre Al Gore.
Voilà, Al Gore qui gagnait la majorité du vote populaire, Bush qui avait quelques voix d'avance en Floride, et la Cour suprême qui décide d'arrêter. Et je rappelle que 3 des juges à la Cour suprême d'aujourd'hui étaient dans l'équipe de George Bush à l'époque, et c'est eux qui ont construit ce cas-là. Donc c'est simplement Donald Trump en train d'expliquer comment, sur le très long terme, il a construit sa victoire de ce soir. Et donc je pense que ce serait bien de remonter vraiment dans le temps long pour comprendre comment le parti républicain, puis Donald Trump, est devenu ce parti qui assure le sentiment d'être dans une posture d'autodéfense pour les Américains. Les Américains se sentent protégés, et c'est un choix parfaitement rationnel, selon selon eux, de choisir ce candidat-là parce que leurs valeurs sont incarnées par cet homme qui leur dit qu'ils sont en danger, qu'il va les protéger.
Robert Mallet, je rappelle, Léa le disait d'un mot, que vous avez travaillé sous les administrations Clinton et Obama. Est-ce que le scénario que l'on a sous les yeux, le discours du président Trump à l'instant, est-ce que c'est le scénario du pire qui pouvait être imaginable au terme de cette élection? Enfin, on est en plein milieu, mais disons pour cette élection, pour ces résultats.
Écoutez, d'abord, je voudrais commenter sur ce que vient de dire le président Trump, parce que c'était à la fois tout à fait prévisible, et beaucoup d'entre nous l'avaient prévu, et tout à fait ahurissant, enfin, parce que ce qu'il dit, il ne faut pas trop faire la comparaison avec la situation en l'an 2000. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas compter des votes qui n'ont jamais été comptés. Enfin, il dit qu'il faut arrêter le compte maintenant et qu'il ne veut pas que si quelqu'un trouve un bulletin de vote à 4 heures du matin, qu'on le compte. C'est ahurissant, comme je le dis.
Ça s'appelle comment, Robert Mallet? C'est un coup de force? C'est plus que ça? Dites-nous.
Écoutez, il ne pourra pas, à bon sens, hein, peut-être je suis trop optimiste ou naïf, je ne vois pas comment il pourra réussir parce qu'il n'y a pas de cour sérieuse, même la Cour suprême qui dira qu'on ne peut pas compter les voix qui n'ont pas été comptées à 2 heures du matin, après 2 heures du matin, le soir du vote. Ça n'a pas de sens. Maintenant, ce que vous dites et ce qui est vrai, c'est que c'est le pire des cas, le cas qu'on craignait, c'est-à-dire où le président Trump déclare victoire et où il va totalement nier et ignorer les voix qui seront dépouillées, les bulletins de vote qui seront dépouillés demain, après-demain, vendredi. Et donc, on pourra faire face possiblement à une situation où le président Trump déclare victoire, alors que quand on aura compté toutes les voix, ça sera le vice-président Biden qui en fait sera élu. Et là, on fait face à une situation assez, peut-être sans précédent, sauf si on revient au 19e siècle aux États-Unis, où ça se jouera. Dans les instances judiciaires. Et c'est vraiment un scénario dangereux parce qu'on peut s'imaginer des débordements dans la rue.
Gérard Haro, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Est-ce qu'on est parti pour la guérilla juridique? Est-ce qu'on est parti pour des heures et des jours de recompte pour la Cour suprême saisie? Qu'est-ce qui va se passer?
Oui, naturellement. C'est pas seulement la Cour suprême. En réalité, ça va être dans toutes les cours suprêmes des États, puisque ce sont les États qui sont responsables de l'organisation des élections. Demain matin, ou ce matin aux États-Unis, ce matin, vous allez avoir des centaines d'avocats qui vont se précipiter dans les cours suprêmes pour demander l'arrêt du comptage, ou au contraire pour demander des recomptages. On est parti pour la gloire. Ce pays est un pays plus profondément juridique. Et donc là, les avocats vont s'en donner en cœur joie. Ça va durer, ça va être très très long, et ça va sans doute aller jusqu'à la Cour suprême, en effet. Donc, comme l'a fait remarquer Robert Mallet, le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, vous aurez un président qui criera sur toutes les chaînes qu'on lui vole son élection, il aura son fils qui appellera les Trumpistes à descendre dans la rue, voire à intervenir. Il va y avoir une tension maximale dans le pays. Et si l'on parlait, moi je ne me suis absolument pas attendu à avoir des incidents ce soir. Les incidents risquent d'arriver plus tard, au fur et à mesure que l'incertitude, les polémiques commencent. Vous avez vu la manière dont il agit. Il revendique déjà la victoire en Pennsylvanie alors qu'on n'a pas encore les résultats. Et il va continuer à le faire et il va nier les votes qui sont arrivés après ce soir.
Gabriel Zucman, vous êtes en Californie, où vous enseignez. Votre analyse, je rappelle que vous êtes économiste, on vous avait reçu ici même au micro d'Inter pour la publication de votre dernier livre. Votre analyse du moment où l'on en est aujourd'hui, maintenant, après le discours de Donald Trump?
Oui, ben hélas, le scénario noir tant redouté est en train de se matérialiser. On se rend compte, il y a deux enseignements qu'on peut déjà tirer du scrutin. D'abord, qu'il n'y a pas eu de vague, de raz-de-marée démocrate, ce qui permet maintenant à Trump d'essayer, pour le dire simplement, de voler l'élection, d'empêcher que des votes soient comptabilisés. Et le deuxième enseignement, c'est que même si Joe Biden l'emporte, il y a un gros risque que les républicains gardent le contrôle du Sénat. Ce qui signifie que même si Biden est président, il ne va sans doute pas pouvoir gouverner, parce que bien sûr, toutes les lois doivent être votées à la fois par la Chambre des représentants et par le Sénat, et sous la présidence Obama, depuis la présidence Obama, les républicains du Congrès ont comme politique de mener une obstruction systématique. Et donc, hélas, la présidence de Joe Biden, si jamais il finit par gagner la Maison-Blanche, qui aurait pu être une présidence de transformation, risque au mieux de n'être qu'une présidence de transition.
Randy Allos, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes, je le répète, président des Republicans Overseas, c'est-à-dire que vous représentez le Parti républicain en Europe. Vous étiez à notre micro hier. Vous pronostiquiez la victoire de Donald Trump. Donald Trump la revendique ce matin, la victoire. On vient de l'entendre. Vous entendez nos intervenants aussi qui disent que ça va se jouer devant les tribunaux. Vous n'y croyez pas, c'est ça? Vous pensez que ça ne va pas aller plus loin et que dans quelques heures, Donald Trump sera élu président, réélu président des États-Unis, ce que vous nous disiez tout à l'heure?
Voilà, on est confronté à une difficulté aujourd'hui. On a 4 États pivots, dont notamment la Caroline du Nord, où les gouverneurs démocrates retardent les comptages des voix délibérément parce qu'ils sont en faveur de M. Trump. Et c'est ça l'audit et dans la fraude dont M. Trump on parle. Et les invités, au lieu de vouloir calmer les jeux, ils essayent de faire en sorte que ça remonte les Américains les uns contre les autres. Et encore, c'est un signe de moins d'irresponsabilité des uns des autres dans les médias, des responsables démocrates qui n'ont pas un discours sain pour notre pays. Au lieu de faire avancer les comptages, ils les bloquent.
Sylvie Laurent, Joe Biden peut encore être président des États-Unis?
Sans doute, oui. Oui, je peux pas vous dire mieux. On est en train de compter Donald Trump, qu'il s'agisse de la mobilisation de la Cour suprême et des tribunaux ou d'une rhétorique de remise en cause de la validité du scrutin. Je rappelle qu'il est dit nulle part dans la Constitution qu'il faille que les grands électeurs respectent le vote populaire. Donc Donald Trump peut tout à fait expliquer qu'il y a des cas de fraude massif et que par conséquent il renomme une série de grands électeurs dans les États républicains pour faire une forme de coup constitutionnel. Je ne pense compris pas que ce soit nécessaire. Joe Biden peut encore éventuellement l'emporter, c'est possible. Le Sénat peut rester tel qu'il est, mais le phénomène politique, là, c'est incontestablement le succès encore de la parole de Donald Trump. Je ne sais pas ce qu'il en est du Trumpisme, mais la parole de Donald Trump après 4 ans d'une présidence dont on pensait qu'elle avait aliéné la majorité de la population.
C'est ça que vous retenez ce matin, c'est-à-dire que quel que soit le résultat final, finalement, à l'issue de la guérilla juridique qui risque de se jouer, c'est qu'à la fin, un, il n'y a pas eu de vague bleue, comme non. Les sondages le prédisaient, et deux, que là, après 4 années de bruit et de fureur de Donald Trump, eh bien les Américains disent encore.
Oui, parce qu'une fois de plus, ça n'est pas simplement l'expression d'affects violents qui surgissent comme ça parce que les gens, voilà, le grand mythe de la plèbe exaltée qui, après un soir de beuverie, décide de voter Donald Trump. Tout ça s'inscrit dans le temps long. On est sur 40 ans de dérive des inégalités aux États-Unis et un pays malade des inégalités qui parvient justement à trouver dans cette personne, mais un peu comme le berlusconisme dans les années 90 et 2000. Hein, je crois qu'il faudrait beaucoup se souvenir de la façon dont Berlusconi était très populaire avec ce mélange de showbiz, de milieu des affaires et de politique néolibérale, et on était très surpris à l'époque. Donc, il est intéressant de comprendre à quel stade de son histoire les États-Unis sont arrivés, et c'est complètement dans la logique d'une dynamique profonde de remise en cause de ce qui conspire à nuire à la grandeur de l'Amérique telle qu'il l'entend.
On va faire le détour à 8h44, détour par Washington pour retrouver Franck Madvon, notre envoyé spécial. Franck, Donald Trump, dans l'allocution qu'on a pu suivre en direct ce matin sur France Inter, a donné beaucoup de chiffres, beaucoup de résultats. Vous les avez regardés de près.
Oui, alors on va essayer de rester très factuel, Nicolas. Mais quand Donald Trump dit « nous avons remporté les élections », c'est faux. On va regarder état par état. « Nous avons remporté la Géorgie », dit Donald Trump. En réalité, il y a un vrai suspense encore en Géorgie. Les villes n'ont pas été dépouillées, en particulier Atlanta, une ville très démocrate. Et les prévisionnistes, les analystes du New York Times notamment, prévoient plutôt une victoire de Biden en Géorgie. Il dit avoir gagné la Caroline du Nord. c'est probable, mais là encore, il y a un peu de suspense. Il dit aussi avoir remporté les trois États qu'il avait conquis il y a 4 ans et qui lui avaient donné la Maison-Blanche, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Là encore, c'est faux. D'ailleurs, l'avance de Donald Trump a fondu ces dernières minutes. Dans le Wisconsin, il est toujours en avance, mais au Milwaukee, une ville qui votera certainement démocrate, n'a pas été décomptée. Idem dans le Michigan, son avance a là aussi baissé à Donald Trump. Il y a donc du suspense dans le Michigan. Idem d'ailleurs en Pennsylvanie, où les votes par correspondance, on le sait, vont peser lourd et ces États vont mettre du temps à dépouiller ces votes. On ne cesse de le dire, mais c'est très important. Donc non, Donald Trump à ce stade n'a pas remporté l'élection présidentielle américaine.
Franck Matvon, merci pour cette analyse et ces vérifications des chiffres données par Donald Trump.
Robert Mallet, est-ce que vous vous interrogez ce matin, après 4 années de Donald Trump, 4 années que les démocrates ont jugé comme un enfer, Alice Kaplan, qu'on avait hier parlé de l'exil intérieur de beaucoup de démocrates, eh bien, 4 ans après, les Américains ne l'ont pas sanctionné sévèrement, comme vous espériez, comme le disaient les sondages. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pans entiers du peuple américain que les démocrates ne parviennent plus à capter, auxquels ils ne savent plus s'adresser? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un peuple introuvable, un électorat introuvable pour les démocrates? On disait que c'était un problème Hillary il y a 4 ans, mais manifestement c'est un problème Biden là aussi.
Tout à fait. Enfin, je pense que les démocrates vont devoir se poser beaucoup de questions, même si Joe Biden l'emporte finalement, parce qu'il ne s'attendait pas à ça, et que même d'un point de vue moral, ils ne se reconnaissent pas dans ce pays où à peu près 50%, même si c'est 45% de la population, continue de voter pour quelqu'un que les démocrates ne rejettent entièrement et qu'ils voient comme contraire à toutes leurs valeurs. Donc je pense qu'il y a ce problème de décalage entre deux Amériques, c'est clair, et Gérard Haro le disait, il le dit depuis longtemps, c'est vrai. Et je crois que les démocrates doivent se poser cette question, pourquoi ne réussissent-ils pas à faire mieux après 4 années d'une présidence qui à leurs yeux était une présidence désastreuse. Et donc là, vraiment, je pense que, enfin, il y a deux catégories de gens qui doivent se poser des questions, les démocrates et puis les sondeurs, parce que les sondages ont été, encore une fois, assez mauvais.
Oui, il y en a certains qui devraient changer de métier. Gabriel Zucman, je vous pose la question et je réemploie le mot de Léa. Est-ce que l'électorat démocrate aujourd'hui est introuvable?
Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le panneau qu'essaye de dresser Donald Trump. Donald Trump n'a pas gagné à l'heure actuelle l'élection présidentielle. Si on regarde le vote populaire, il est très probable que Joe Biden l'emporte assez nettement dans le vote populaire.
Si on regarde comme Hillary il y a 4 ans qu'il avait emporté.
Sans doute plus largement qu'Hillary il y a 4 ans qu'il avait emporté de 2 points. Là, on peut envisager une victoire de Joe Biden de 3, 4, 5 points dans le vote populaire. Donc une victoire sans doute plus large. Donc il faut faire attention. Donald Trump va essayer de convaincre la terre entière qu'il a gagné, et c'est tout simplement pas le cas. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, les sondages, Donald Trump n'est pas populaire. Sa cote de popularité n'a guère bougé depuis qu'il a été élu. Elle a resté très stable, aux alentours de 43-44%.
Donc pour vous, il n'y a pas de problème d'électorat démocrate.
Il y a des problèmes très graves. Mais bon. Il y a des problèmes, il faut bien comprendre la nature des problèmes. Il y a des problèmes institutionnels et démocratiques très très forts aux États-Unis. C'est-à-dire que on est maintenant dans une situation où un candidat qui perd le vote populaire de 3, 4, 5 points peut néanmoins gagner la Maison-Blanche. On est dans une situation où le Sénat peut être à majorité démocrate, alors même qu'une grande majorité de l'électorat peut être à majorité républicaine, alors qu'une grande majorité de l'électorat vote démocrate. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que vous prenez le Dakota du Nord, qui a 800 000 habitants, et il a 2 sénateurs, autant que la Californie, qui a 40 millions d'habitants. Donc il y a un problème de représentativité, il y a un problème de démocratie qui est très très fort, et il y a un enjeu de réforme institutionnelle qui est central de mon point de vue, ce qui ne veut pas du tout dire que Joe Biden a fait une campagne parfaite ou que les démocrates se sont très très bien organisés, mais c'est important de rappeler ça.
Gérard Haro, vous entendiez Robert Mallet dire il y a 2 catégories de personnes qui doivent se poser des questions ce matin, c'est 1 les démocrates, 2 les sondeurs. Vous avez reconnu tout à l'heure quand on vous avait en ligne que vous avez été surpris, vous êtes surpris par le résultat, même si Biden l'emporte à la fin, tout de même ce sera ric-rac, ce sera très serré. Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard Haro? Comment vous expliquez que que le raz-de-marée prévu par les sondeurs ne se soit pas déroulé, que Joe Biden n'arrive pas à monter chez certaines catégories. Et on le voit, je reste prudente ce matin, mais dans certaines populations sur lesquelles il misait, c'est-à-dire les latinos, c'est-à-dire les noirs américains, eh bien là encore, Trump monte dans ces catégories-là.
Je crois d'abord que c'est que nous tous, et je m'inclus dans ce nombre, nous avons été, alors que je répétais que Trump n'était que le symptôme de la crise et pas la crise elle-même, mais nous sommes trop tournés vers Trump et nous n'avons pas voulu comprendre ce qu'il représentait à sa manière, c'est-à-dire la crise sociale, économique du pays, cette partie des États-Unis qui, justement, se sent exclu du système et donc, d'une certaine manière, veut renverser la table. Nous n'avons pas voulu écouter, sentir ce qui se passait dans la profondeur du pays, parce que nous considérions que ce type était tellement insupportable, tellement qu'il ne pouvait pas être, il ne pouvait pas être réélu. Mmh. Et contrairement peut-être à M. Zucman, je pense que le Parti démocrate a quand même des questions énormes à se poser.
Lesquelles, Gérard ?
Ben, tout simplement, c'est, comme je l'ai dit, je crois, précédemment, le Parti démocrate n'a pas de message national. C'est vraiment « Make America Great Again ». De nouveau, c'est primitif, mais ça marche. Que dit le Parti démocrate ? Qui peut me résumer en une phrase ce que le Parti démocrate promet ? Rien. En réalité...
Chasser Trump.
Voilà, Biden a fait de cette élection lui-même, il a fait une élection sur le référendum sur Trump. Et il s'est bien gardé d'aller plus loin que ça, parce que le Parti démocrate est déchiré. Il est déchiré entre un centre, une direction centriste, dont il est le représentant, et la dynamique du Parti démocrate, qui est une dynamique pour d'aller vers la gauche. Donc, c'est ce Parti démocrate, les partis américains sont toujours des partis attrape-tout, naturellement, mais ce Parti démocrate a été incapable aussi de dire aux Américains, qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que s'il allait trop à gauche, il avait peur de perdre les centristes.
Sylvie Laurent, sur ce point, sur cette analyse de Gérard Araud.
Non, moi je suis assez en désaccord sur l'idée que les démocrates ne proposent rien. Ça fait maintenant 8 ans que la seule chose, s'il fallait résumer une chose que propose le Parti démocrate, ça s'appelle l'assurance santé. Il y a près de 250 000 personnes qui sont mortes aux États-Unis à cause du Covid. Les Américains n'ont jamais été autant vulnérables. Certes, Joe Biden est loin d'être la figure exaltante et c'est un centriste qui incarne tout à fait la ligne néolibérale d'un parti qui voit sa base aller de plus en plus vers sa gauche. Donc il y a un chiasme au sein du Parti démocrate et il faudra sans doute qu'il trouve une solution. Mais la réalité, c'est que le Parti républicain, c'est la politique de l'identité blanche, du défi des institutions, l'expression d'une force et d'un pouvoir. Et Donald Trump, y compris dans sa déclaration de ce soir, c'est la mise en spectacle d'un pouvoir face à des gens qui se sentent dépossédés. Et par ailleurs, les démocrates proposent une chose très simple, ça s'appelle l'assurance santé. C'est pas un discours pour les minorités, c'est un discours universel et c'est un discours qui ne suffit pas.
Que j'allais vous dire, puisque on pensait que le Covid et que la gestion, disons, erratique de Donald Trump de cette pandémie allait être le game changer de cette élection, c'est-à-dire ce qui allait faire changer l'élection. On voit qu'il n'y a pas eu de référendum anti-Trump sur sa gestion du Covid.
Il n'y a pas eu de référendum contre Trump parce qu'on ne gagne pas une élection simplement en ne proposant pas une contre-idéologie. Une fois de plus, une mesure de politique publique très simple comme le fait de proposer une assurance santé devrait suffire à rassembler une majorité de la population. Et c'est sans doute le cas. Mais l'idéologie que propose Trump, qui est tellement ancrée dans la culture populaire, au sein du Parti démocrate, de toutes les législatures locales, c'est quelque chose que...
Vous résumez comment cette idéologie de Trump ?
Par le protectionnisme racial. C'est-à-dire que le Parti républicain, c'est le parti de la protection de l'Amérique traditionnelle, masculine et hétérosexuelle. Et vous parliez du fait qu'il y a des progrès, en particulier parmi les hispaniques, ce sont les hommes hispaniques. Et on voit très bien, il y a quelque chose de très puissant dans l'idée de la reconquête, de la restauration d'un pouvoir perdu. Une fois de plus, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les ouvriers, ce ne sont pas les gens qui ont objectivement, au sens du matérialisme marxiste, certains l'ont, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, presse, c'est le désir de restauration d'une préséance perdue en se défiant des minorités, de l'État central, de l'État fédéral et en ressuscitant le mythe de la méritocratie, de l'ascension sociale, de vous allez y arriver par le travail. Et cette idéologie-là, elle est d'une puissance telle qu'il faut commencer à comprendre quel est le contre-discours qui peut permettre d'aller contre cela. Et auprès de cette population blanche qui représente 60% de l'électorat, pour l'instant, cette contre-idéologie et ce contre-discours reste à trouver. Mais Obama l'a trouvé en 2008.
Vous pensez que cette contre-idéologie, pour reprendre le mot de Sylvie Laurent, ce contre-discours, Robert Mallet, il est trouvable pour les démocrates ?
Oui, non, il est trouvable. Et puis, n'oublions pas le fait qu'il y a quand même une transition, une évolution démographique des États-Unis qui font que, à terme, même si les démocrates ne changent pas trop de discours, ils devraient pouvoir l'emporter. Il ne faut pas non plus aboutir à des conclusions hâtives. On peut se réveiller vendredi matin, Joe Biden peut gagner encore de façon relativement confortable. Lorsque je dis que les démocrates doivent se poser des questions, c'est parce que c'était quand même une présidence qu'ils ne reconnaissent pas, ils ne peuvent pas comprendre, et je fais partie de ces gens-là, ne peuvent pas comprendre comment tant d'Américains peuvent toujours voter pour quelqu'un qui représente exactement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire une idéologie identitaire blanche, un retour, une nostalgie pour une Amérique qui n'a vraiment jamais vraiment existé. Mais et comment est-ce qu'on peut avoir une Amérique où tant de gens votent toujours pour cette vision-là ? Ça, je pense qu'il faut que les démocrates se posent cette question, qu'ils évoluent dans leur discours. Et encore une fois, c'est pas seulement les présidentielles, vous l'aviez dit par ailleurs, le Sénat va rester sous contrôle républicain, alors que les démocrates s'entendaient à autre chose. Donc, il y a quand même une réflexion qui va s'imposer aux démocrates. Et comme l'a dit Gérard Haro, c'est un parti qui est toujours déchiré entre une aile plus à gauche, une aile beaucoup plus centriste.
De plus en plus déchiré, Robert Mallet.
Il est déchiré et je pense que le résultat de ce soir, encore une fois, quel qu'il soit au final, ne fera que raviver ce débat parce qu'il y aura ceux qui diront, eh bien, il aurait fallu choisir une voie plus à gauche, plus combative, plus militante, et d'autres qui diront, non, c'est justement ça qui a fait peur à un certain électorat.
Et justement,
donc, le résultat ne résoudra pas ce débat.
Gabriel Zucman, qu'est-ce que vous dites sur ce point-là, vous, ce matin? Vous dites que peut-être qu'un profil comme Bernie Sanders aurait peut-être fait changer la donne, que Joe Biden était peut-être trop centriste?
En quelques mots, Gabriel Zucman.
On va pas refaire le match, mais on sait qu'un certain nombre de positions qui sont défendues par Bernie Sanders ou qui étaient défendues par Elizabeth Warren et qui avaient été en partie reprises par Joe Biden sont extrêmement populaires. Donc l'assurance santé publique, ça a été évoqué, mais si on regarde le salaire minimum à $15, prenez la Floride, c'est très intéressant. La Floride a voté pour Donald Trump, mais il y avait aussi un référendum sur augmenter le salaire minimum à $15 qu'il a emporté avec 62% des voix en Floride. C'est une politique, doubler le salaire minimum, créer un salaire minimum qui serait comparable, mais un peu plus élevé que le salaire minimum français, c'est quelque chose qui est très populaire. Quand on interroge les Américains sur, par exemple, l'imposition des très grandes fortunes, l'idée d'un impôt sur les fortunes au-delà de $50 millions de patrimoine, on voit qu'il y a 60% des Américains qui se déclarent en faveur d'une idée de cette nature-là. 70% de démocrates, mais aussi une majorité de républicains. Donc, ces idées-là sont très populaires. Certaines avaient été reprises par Joe Biden. On peut penser que si le Parti démocrate avait été incarné par un Bernie Sanders, une Elizabeth Warren, ils auraient pu reprendre plus de ces idées et peut-être c'est ça qui aurait in fine fait la différence.
Gabriel Zucman, économiste en direct de Californie. Je rappelle que vous enseignez à Berkeley. Je vous remercie d'avoir participé à cette édition spéciale du 7-9. Merci également à Robert Mallet, à Gérard Haro qu'on retrouvera peut-être dans la prochaine demi-heure et à Sylvie Laurent également qui nous accompagne ici en studio depuis 7 heures ce matin.